France Musique.
Merci Lionel, je vous souhaite un bon week-end et l'on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités, le compositeur Philippe Fénelon et le violoniste Pierre Fouchenray.
This is an electronic instrument that I have
built. Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Tapage nocturne.
Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète.
Bruno Le Thor.
Le violoncelle de mon enfance. Pour le magnétophone.
France Musique.
Et pour le potentiel.
L'invité de ce tapage nocturne sera le producteur iconoclaste Philippe Gielmetti, fondateur des labels Sketch et Illusion. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec une œuvre de Gheorghi Ligeti composée en 1994. Cette œuvre baptisée Chaconne chromatique est le dernier des six mouvements de la sonate pour alto solo que le compositeur hongrois commença 3 ans auparavant. À propos de ce mouvement, Ligeti disait qu'on ne s'attende pas à une allusion de la célèbre Chaconne de Bach. Ma sonate est beaucoup plus modeste, elle ne revêt aucune historicité et n'implique aucune forme monumentale. J'emploie le mot de Chaconne dans son sens originel, celui d'une danse sauvage, turbulente, avec une pulsation fortement accentuée et une ligne de basse ostinato. La version que nous découvrirons dans un instant fut enregistrée par Kim Kashkashian en 2011 pour le label allemand ECM.
Thank you.
Chaconne chromatique extrait de la sonate pour alto de Gheorghi Ligeti, interprétée par Kim Kashkashian, un enregistrement de 2001.
Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
Après avoir créé le magazine Crowbar, s'être pris de passion pour la bande dessinée, s'être installé à New York après avoir imaginé des affiches pour MK2, pour les éditions d'Argo, et j'en passe, Philippe Gelmetti se lance dans l'aventure discographique avec son label Sketch en 1999, qui produira 31 opus discographiques qui compteront dans le paysage musical jazzistique. Depuis 2006, c'est avec un autre label, Illusion, qui offre un écrin aux artistes inventifs, parmi lesquels Stéphane Oliva, Marc Ducret ou Bill Carothers. Philippe Gelmetti est l'invité de ce tapage nocturne.
France Musique, Tapage Nocturne, Bruno Le Thor.
Bonsoir Philippe Gianmetti.
Bonsoir.
Alors vous êtes fait connaître dans un premier temps comme graphiste, et puis vous êtes lancé dans l'aventure de la production phonographique. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine ?
Waouh ! D'abord, je suis toujours graphiste. C'est mon occupation principale. C'est une histoire de fétichisme, en fait. Il y a un peu plus de 20 ans, je suis déjà depuis longtemps collectionneur de 33 tours, de jazz et de blues, et de soul. Et donc je fréquente une officine parisienne dans le 5e arrondissement. Arnaud, qui est le patron de cette officine, a un jour un disque que je cherche depuis très longtemps, introuvable, hein, qui est un disque de Georges Arvanitas en trio, qui était enregistré en 58 avec la rythmique de Donald Byrd. Si ma mémoire est bonne, ça doit être Doug Watkins et Art Taylor. Et il a ce disque à vendre, et donc il a une palanquée de collectionneurs, pour la plupart nippons. Et ça vaut 5000 francs. C'est encore l'époque des francs. Alors 5000 francs, ça me paraît pas très raisonnable quand même d'acheter un disque pour 5000 francs. Et donc je dis à Arnaud, est-ce que tu peux me le prêter? Je vais me faire une petite cassette. C'était encore l'époque des cassettes. Et Arnaud me le prête, et bon, il me prête ce disque, je l'écoute, que c'est un disque qui me plaît beaucoup, je trouve ça bien, voilà. Et puis un jour, je me dis, c'est dommage, pourquoi personne ne ressort ce disque? Et puis ça m'a turlupiné pendant 2 jours, au bout de 2 jours, je me dis, mais pourquoi je le fais pas, moi? Je sais très bien comment ça fonctionne, je connais très bien le métier du livre, je me dis, le disque et le livre, c'est quand même un peu la même famille, donc je vais le faire, voilà. Après, il y a toute une histoire... Ce disque sort, finalement ça a été un succès, les Japonais en ont acheté plein, Arnaud a eu un autre disque du même musicien d'ailleurs, Georges Arvanitas, avec la rythmique de Horace Silver, que j'ai réédité aussi, puis je me suis dit, ah mais c'est super, d'abord j'avais gagné des sous, Georges Arvanitas que je payais à chaque fois me disait, mais j'ai jamais gagné autant d'argent pour un disque. Et puis, je me suis dit, mais c'est un hobby super. Non seulement, ça me permet d'avoir un exemplaire impeccablement fait. C'est comme je suis quand même un peu un maniaque et que je connais le métier du livre. J'avais refait la pochette comme il faut, avec les petits rembords, avec le pelliculage où il fallait, imprimé comme il faut, sur le papier qu'il faut. C'est peut-être aussi pour ça que ça a marché, d'ailleurs. Peut-être pas seulement pour la musique, j'en sais rien. Et je me suis dit, c'est un hobby, c'est super, je vais faire ça. Donc, ai-je besoin dans ma discothèque que je... pas encore, que je rêve d'avoir, et pour lequel j'ai pas envie de dépenser 5000 francs. Eh bien, Humer, Heurtregard, Michelot. Et donc là, je contacte l'ayant droit, Jeanne de Mirbeck, qui j'explique, voilà, je fais des rééditions, je voudrais acheter des droits pour faire une petite réédition, 33 tours, 1500 exemplaires quand même. Et elle me dit, ok, bon, je pense qu'elle s'est renseignée, je crois, elle a dû appeler Georges et tout ça. Et elle dit, écoutez, c'est simple, je vais venir avec les musiciens, vous leur signez leur contrat, vous faites leur chèque, et puis comme ça, c'est fait. Bon, les musiciens, ouais, j'en ai vu énormément, bien évidemment, dans les concerts. Je ne les avais jamais vraiment approchés. Je me souviens d'avoir payé un verre à Don Friedman un soir au New Morning, parce qu'il y avait tellement peu de gens dans la salle, je trouvais ça honteux, donc voilà, je lui avais payé un verre au bar, mais je crois que c'est à peu près la seule fois où j'avais discuté avec un musicien. Et donc voilà que débarque un jour Daniel Humer, René Retreuillard et Pierre Michelot. Et j'étais quand même très impressionné. J'avais fait venir un copain photographe qui a immortalisé cette rencontre. Ils étaient super. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils jouaient plus ensemble depuis des années, qu'ils se voyaient très très peu puisqu'ils fréquentaient pas les mêmes circuits. En fait, ils étaient, c'est comme s'ils s'étaient quittés hier. Daniel est venu avec une bouteille de vin blanc. Bon, on fait notre affaire. Ils repartent avec leurs sous. Jeanne avec son contrat. Je vais déjeuner avec mon copain. Et puis, je dis, mais c'est incroyable. Ils sont formidables. Humainement, c'était super. Bon, puis le soir, je rentre chez moi, je vais me coucher, puis je suis dans mon lit, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils n'enregistreraient pas un troisième disque? Et puis j'en ai pas dormi de la nuit, et puis je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas, moi? Alors je sais pas lire une note de musique sur une partition, j'ai jamais vu un micro de ma vie, je sais pas comment ça marche du tout. Mais j'ai réfléchi à mon truc, je me suis dit, comment je vais faire pour arriver à les convaincre? Je me suis dit, le plus dur à convaincre, c'est Daniel Humer. Donc, comme je, dans mon métier de graphiste, quand je vends des projets, il faut que j'argumente. Donc, je, voilà, une espèce de tchatch un peu comme ça, je vais pas dire naturel, mais bon, qui est nécessaire en tout cas à mon métier. Et donc, j'avais tout prévu. Je me fais, je fais ma petite répète. Je me dis, bon, je vais appeler Humer. Et puis, je, voilà, s'il me dit appeler mon agent, je dis ça. S'il me dit ceci, je dis ça. S'il me dit cela, je dis ça. Mais je décroche le téléphone. J'appelle Daniel. Bonjour, Philippe Bialumetti. Vous vous souvenez de moi? Vous êtes venu il y a un mois et demi. Il me dit, oui, je me souviens très bien. Voilà, qu'est-ce que vous penseriez de faire un troisième disque avec Pierre Michelot et René Hertreguer? Ça serait moi qui le produirais. Et alors là, il a donné la seule réponse à laquelle j'avais rien de prévu, c'est « Je trouve que c'est une très bonne idée, appelez les autres et vous me rappelez. » Voilà, j'ai donc appelé les autres. Alors, je ne raconterai pas comment ça s'est passé, ça va durer une demi-heure. Et au final, me voilà embarqué dans une production avec trois mecs qui ont quand même un sacré caractère et une sacrée carrière, qui sont de sacrés musiciens. Et c'est parti.
Vous avez développé plusieurs labels. Est-ce que chaque label correspond à une esthétique ?
Non, pas du tout. Ça correspond uniquement à ce que j'aime. Vraiment.
C'est comme ça que vous pourriez définir la ligne éditoriale ? Ce que vous aimez ?
Non, je crois que... Non, bien sûr que non. Je crois que ce que j'aime, c'est une certaine esthétique qui n'est ni européenne ni américaine. Il y a 20 ans, c'était peut-être moins précis qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, cette esthétique-là, je trouve qu'on la, on la trouve même chez les Américains. C'est-à-dire qu'ils font une musique, ou certains musiciens en tout cas, font une musique qui doit à la musique européenne. Je pense que c'est... mon jazz à moi, il doit autant à Ravel ou à Debussy qu'à Ellington. Je m'intéresse beaucoup au piano et à la contrebasse, bon, voilà, ça c'est une chose. Mais en fait, c'est les personnalités qui m'intéressent, c'est les musiciens qui ont une personnalité très forte. Et puis, peut-être aussi, chez ces musiciens-là, une partie de ce qu'ils font. Il y a des musiciens avec qui je travaille, qui font des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Je m'intéresse à une facette de leur personnalité. Je me souviens, Bill Carozer m'a envoyé un jour un disque qu'il a fait avec un label étranger. Il m'a envoyé ça, il me dit « Je sais que ça ne te plaira pas du tout, parce que ce n'est pas du tout ton truc. Toi, tu cherches autre chose. » Mais bon, voilà, c'est mon dernier disque. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so, little ones to
avez des affinités avec des musiciens que vous retrouvez régulièrement dans les enregistrements. Je pense notamment à Stéphane Oliva. Et chez Stéphane Oliva, il y a un univers qui est teinté de cinéma, souvent sur certaines productions. Est-ce que l'image vous parle ? Je veux dire, par là, est-ce qu'il y a une porosité entre vos deux activités ?
Bah, bien évidemment. Oui, ça c'est oui. Mon métier, c'est l'image. Enfin, c'est l'image et le texte quand même. Mais oui. Après, bon, je suis moi-même cinéphile, cinéphage depuis je sais pas, très jeune, 12-13 ans. J'ai beaucoup mangé de cinéma. J'en mange toujours beaucoup. Et je suis toujours à la recherche de choses que je connais pas, ou de nouveautés, ou de...
Et là, par exemple, sur ces deux productions, cet hommage à Bernard Herrmann ou Film Noir, ce sont des disques dont vous êtes à l'origine. C'est vous qui avez eu l'idée, c'est vous qui avez impulsé l'idée.
Depuis le début, j'ai un rôle très... je suis vraiment là, quoi. Je suis là pendant l'enregistrement, ça me plaît pas, je veux qu'on recommence, qu'on fasse autrement. Je suis casse-pied, ouais. Et oui, j'ai proposé beaucoup de... Je sais pas, quasi 90% des disques sont des propositions de ma part. Sur Stéphane, c'est particulier, on est très très proches, on est très amis, on part même en vacances ensemble des fois. Herrmann, ça vient d'un... Stéphane a fait un disque il y a plus de 20 ans maintenant, pour un producteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Jacques Puccio, qui avait un label qui s'appelait Hall, et ils ont fait un projet sur le cinéma où il y avait plusieurs pianistes d'ailleurs. Et j'ai toujours adoré ce disque, et bon, Herrmann m'intéresse à cause du cinéma, mais aussi la musique d'Herrmann. Et puis un soir, on est en train de dîner, on boit des verres, probablement trop d'ailleurs, et je dis, mais pourquoi on ferait pas un projet uniquement sur Herrmann? Puis le lendemain matin, on se réveille, on se dit, oh là là, on a trop bu hier. Mais il me semble quand même avoir dit un truc qui n'était pas si bête que ça. On essaie de se souvenir. Eh oui. Tu te souviens, on a parlé de ça? Ah oui, c'est une bonne idée, non? Ouais, ah oui, ouais, bah ouais, super, bah ok, on le fait. Thank you.
Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
Et sur Film Noir ?
Film Noir, c'est vraiment pareil. Si on se dit, on était tellement contents d'avoir fait Herman, on se dit, tiens, on ferait bien autre chose, qu'est-ce qu'on ferait ? Puis on cherche des sujets, voilà, puis on tombe sur le film noir parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup tous les deux. Mais le film noir, c'est particulier parce que il y a des films qu'on adore et qui ont de très mauvaise musique, et il y a aussi des films qui ont plutôt une bonne musique pour des films qu'on n'aime pas. Donc il a fallu trouver à la fois des films qu'on aimait bien et qui avaient une bonne musique. Et on a fait aussi un projet sur Jean-Luc Godard, qui s'appelle Vaguement Godard, qui à l'origine était un projet sur la Nouvelle Vague. Et puis on cherchait, puis je sais pas, on n'était pas contents des propositions des uns, des autres. Et on est tombé sur Godard, on s'est dit, ah oui, Godard c'est bien, Godard parce que c'est très ouvert, parce qu'on pourrait faire à la fois le Godard mythique des années 60, mais aussi celui du retour des années 80-90. On refait un quatrième projet d'ailleurs, qui sortira le mois prochain.
Consacré
au cinéma, à la matière filmique. C'est un projet un peu très particulier, je crois. Ces projets-là, ils ont été faits avec Stéphane Oskeridian, qui est sound designer, comme on dit, du Théâtre du Châtelet, qui est un très bon copain. Et on a fait ces projets tous les trois, en fait, c'est cette série sur le cinéma. Et lui est une vraie culture musicale, c'est-à-dire aussi de technique musicale. Et on a, enfin, j'ai imaginé, et puis ensuite on a discuté avec Stéphane Oskeridian après, d'improviser pendant 3 heures, 4 heures, sur des thématiques, sur des mots, qui sont des mots du cinéma, de prendre cette matière et que Stéphane en fasse un montage. Donc on s'est retrouvé avec 5 heures de musique qui sont transformées en 45 minutes de CD. Comme on voulait pas que Stéphane Oliva soit préparé, on lui a rien dit. On lui a dit, écoute, on va descendre à Avignon, on va rester 2 jours. On veut faire un projet avec toi, mais on veut pas te dire ce que c'est. Est-ce que t'es d'accord? Stéphane dit, bah, bien sûr, pas de problème. Et en arrivant là-bas, on lui a dit, voilà, en fait, on va te donner des mots. À toi d'improviser sur ces mots. On peut entendre ça dans un mois, ça sort le 15 février. Parce que Stéphane a un concert à son d'hiver à Vincennes et il jouera bien évidemment pas ça, puisque ce disque c'est le fruit de, je sais pas, il devait avoir en 45 minutes de musique, il devait avoir plus de 150 points de montage, c'est quand même assez beaucoup, on dira. Mais il fera un projet sur l'ensemble de ce que représente le cinéma pour lui, c'est-à-dire il y aura du Herman, du film noir, du Godard et puis plein d'autres choses.
Thank you.
Parlez-nous un peu des projets, justement.
Il y a un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, qu'on va enregistrer les 12 et 13 avril avec Marc Copland, autour de la musique de Gary Peacock. J'ai enregistré un duo de ces deux musiciens il y a, je sais pas, une quinzaine d'années. Et j'ai toujours beaucoup aimé Peacock, bon, en tant qu'instrumentiste, c'est sûr, bien évidemment, mais aussi en tant que compositeur. Je trouve qu'il y a un côté folk qui est vraiment incroyable chez lui, qui est très très marqué. Et c'est des gens qui jouent leurs propres compositions, mais ces compositions sont jamais jouées par d'autres. En jazz, c'est souvent le cas. On joue les anciens, mais on fera un disque sur Charlie Parker, sur Billie Holiday, mais on joue jamais les copains. Alors j'ai eu plein d'idées comme ça qui se sont jamais faites sur. Je voulais à un moment donné qu'un tel écrive la musique pour tel ou autre. Et ça, bon, ça s'est pas fait pour tout un tas de raisons. J'ai eu quand même quelques malheurs dans ma vie de producteur. Mais voilà, on a choisi avec Stéphane Oscaridzian, puisque finalement maintenant on fait presque tout ensemble, des thèmes de Gary ou même des improvisations, des bouts d'improvisation qu'on a confié à Marc Copland, qui m'a d'ailleurs dit hier qu'il était en plein dedans en ce moment, qu'il va donc interpréter en piano solo. Ça, c'est un des projets.
Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Gielmetti, d'être venu nous parler de cette aventure phonographique. Et à bientôt.
À bientôt.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était ce soir Emmanuel Armingue, attaché d'émission Soizic Noël, réalisateur Bruno Rioux-Maillard. Il est l'heure maintenant de Création mondiale, une émission d'Anne Montaron.
À réécouter sur francemusique.fr.